À présent, on va passer la parole à Géraldine Longueville, qui est aussi commissaire d'exposition indépendante. Elle a créé une galerie qui n'a pas de mur, qui s'appelle la Galerie Extérieure, en 2006, où elle réalisait des projets dans l'espace public avec les artistes, en créant dans la ville des situations. Elle aura peut-être l'occasion d'en reparler. En 2008 et 2009, elle a été co-responsable de la programmation des expositions à la Vitrine à Paris et elle enseigne à l'école d'art de Cergy. En 2011, elle est invitée au Centre d'art Le Quartier pour réaliser une exposition et c'est un peu les prémices de ce projet qu'elle va nous présenter ici.
Voilà, merci. Tout d'abord, je voulais juste rectifier, je vais faire donc une présentation de mes recherches pour cette exposition qui aura lieu en avril 2011 à Quimper. Mais je rectifie en fait ce qui est écrit dans la présentation de cette conférence. Je ne vais pas éplucher mes sources en direct. En fait, il n'y aura pas d'image. Et je vais vraiment essayer de vous développer l'articulation de mes recherches. Déjà, je suis invitée donc, en tant que commissaire d'exposition. Je ne suis pas spécialiste du document en particulier, mais l'exposition que je vais organiser traitera plus de la notion d'archive, en fait. Mais cette notion n'est pas forcément une thématique. Je ne travaille pas par rapport à ça comme ça. Cette thématique, ça vient vraiment d'une observation de ce qui se fait aujourd'hui en art contemporain et ces notions-là, anachronisme, voilà, référence et documents, et moi je rajoute archives, sont très actuelles aujourd'hui. Donc, je peux faire, hop, comme ça. Là, vous m'entendez bien. Voilà, donc l'exposition que j'organise là à Quimper, je n'organise pas toute seule, j'organise vraiment avec les artistes. C'est-à-dire qu'on va produire, toutes les pièces, quasiment toutes vont être produites pour l'exposition. Donc on travaille en groupe, moi, Keren Deton, la directrice, et les artistes. Donc ça, c'est assez important pour un peu vous présenter comment on va travailler. Et c'est pas forcément des artistes qui travaillent avec les notions d'archives, qui travaillent avec les documents. J'invite pas les artistes à exposer leurs archives personnelles, choses comme ça, mais j'aimerais considérer les œuvres elles-mêmes comme les archives de leur propre existence. En fait, c'est-à-dire des œuvres qui s'apprécient sur différentes durées et qui conservent en elles différentes potentialités, en fait, qui s'annoncent comme telles d'ailleurs et qui annoncent ce qu'elles seront. Ce serait comme garder en mémoire des données qui s'utiliseront plus tard. Et ce parallèle, je le fais avec l'archive, la notion d'archive. J'aime utiliser ce terme en particulier, et pas le terme document, parce que pour moi, l'archive est vivante, en fait. C'est une donnée et une annonce aussi. Avec ce terme-là, on peut retravailler la notion de temps, de temporalité, en fait. Et l'archive, pour moi, mélange le passé, le présent et le futur en même temps. Je vais vous expliquer un peu où je veux en venir avec cette idée-là. Donc voilà, moi je propose de réviser la concordance des temps d'une œuvre à travers la notion d'archive. Voilà. Donc à la différence du document, pour moi, l'archive relève plus d'un acte. D'ailleurs, le terme archive s'emploie généralement au pluriel, afin de plus suggérer un ensemble et l'action de rassembler plusieurs documents. Donc l'exposition, voilà, ça concerne moins l'objet en soi, l'objet du document, le document en tant que tel, que son activité, en fait. L'archive est une saisie du monde, de ses données. Une interrogation quant à sa conservation, sa présentation et sa représentation. Voilà. Et cette saisie, c'est exactement ce qui m'intéresse pour cette exposition, car il s'agit de donner un statut à une source, une place, un nom. Et ce geste, pour moi, est un processus en fait, que les artistes réalisent aussi, aujourd'hui, mais aussi dans les années 60, 70, même avant. Et là, je cite Alan Ruppersberg, artiste américain, qui dit « collectionne, accumule, rassemble, préserve, examine, catalogue, classe, compare, numérote, assemble, catégorise, classifie et conserve l'éphémère. » C'est quand même une sorte de programme qui définit aussi sa pratique, sa méthode en fait, sa méthodologie. Donc voilà, l'archive met en évidence et transforme des données en sources utilisables. Et en archivistique, on emploie en général la théorie des trois âges. C'est une théorie qui a été élaborée dans les années 60 par l'archiviste Yves Perrotin et qui est encore valable aujourd'hui, même s'il y a eu des modifications. Mais en gros, il catégorise les archives en trois âges. Les archives actives ou courantes, donc qui concernent les affaires en cours. Donc c'est pour ça que je dis finalement que l'archive, c'est... pas tourner vers le passé, mais c'est une manière aussi de catégoriser le présent, de l'analyser, enfin en tout cas de le classifier. Il y a les archives semi-actives ou intermédiaires, dont on n'a pas l'utilité quotidienne, mais dont on peut se référer par exemple pour des besoins juridiques ou je ne sais quoi. Et enfin, les archives définitives ou les archives archivées, j'aime beaucoup ce terme, qui sont conservées pour leur caractère patrimonial ou historique. Et finalement, chaque archive a en germe cette potentialité d'être définitive, de devenir une archive importante parce qu'elle est la trace d'un événement dont on suggérerait au présent que ça deviendrait important dans le futur. Donc en fait, il y a une sorte de spéculation de l'archive, de l'archiviste en tout cas. Et ça, cette spéculation comme ça, pour moi, rend... le document rend l'archive, les références, vivantes. Et ça, c'est une sorte de... Vraiment, la préoccupation centrale de cette exposition, c'est de considérer l'archive, les œuvres, comme une matière vivante qui se reconfigurerait à plusieurs reprises, sur plusieurs temps. En fait, il n'y a pas d'arrêt. Comme ça. Voilà. Ensuite, voilà, donc ce qui va m'intéresser, ce n'est pas forcément la connaissance historique des artistes, le savoir ou l'utilisation iconographique pour cette exposition, mais c'est l'acte de recenser les sources que l'on dispose. Et voilà, et de voir comment les artistes, en fait, les configurent. Donc là, je pense, l'une de mes références, c'est George Brecht, artiste américain. Et lors d'une discussion qu'il a eue avec l'artiste Ben en 1965, Ben l'interview, lui pose la question de sa place en tant qu'artiste, comment il se définit. Bon, déjà, c'est un terme que Brecht réfute dans la discussion, mais Brecht, il dit « Tout ce que je fais, c'est de mettre les choses en évidence, mais elles sont déjà là. » Donc, voilà, pour moi, l'archive, c'est cette pratique-là qui permet de mettre ces choses en évidence, justement. Et ces préoccupations propres à l'art des années 60 et 70 me semblent très actuelles chez certains artistes. Notamment, donc, cette volonté de ne pas ajouter un objet de plus, mais de faire avec ce dont on dispose, en le reconfigurant d'une manière nouvelle. Alors, je pense qu'il y aura un parallèle, on n'en a pas encore parlé aujourd'hui, mais il y a, à mon avis, ces préoccupations des années 60-70 sont actuelles aussi par l'utilisation d'Internet, dont bien sûr les artistes sont complètement accaparés cet outil, qui est avant tout aussi une base de données illimitée et un peu absolue comme ça, mais dont qu'on consulte en fait. Et est-ce que du coup, pour moi, les termes de Brecht résonnent encore plus du fait que Internet est une sorte de source inépuisable dont les artistes disposent et utilisent dans leurs œuvres. Donc voilà. Donc en fait, certains artistes produisent des œuvres à partir de sources, elles-mêmes reconfigurées, et les œuvres d'art elles-mêmes deviennent des sources à leur tour. Donc moi, c'est peut-être ça que je vais essayer d'apporter aussi à Quimper, c'est finalement, on remarque que pas mal d'artistes rejouent leurs œuvres elles-mêmes, qui sont elles-mêmes aussi réalisées à partir de sources, donc une sorte de recyclage un peu sans fin comme ça. Je pense par exemple à Raphaël Zarka et l'image du polyèdre qui revient sans cesse dans son travail. Je pense à la revue américaine Dot 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 avec l'américain Stuart Bailey qui, au fur et à mesure de ses numéros dans les revues, utilise des fois, plusieurs fois la même image, sauf qu'il va zoomer dedans, il va l'associer à une autre image, à un autre texte. Et de fil en aiguille, on se rend compte que cette répétition est en marche, de toujours la même image, sauf qu'elle est voilà, montrée différemment. Et en fait, elle reste active. Et ça, c'est une donnée assez importante, je crois, pour moi, en particulier par rapport à ce séminaire. Je pense à Marc Geffriot, artiste français, qui dernièrement a fait un long papier peint, en fait, qui ne s'arrête pas, enfin qui est infini, et il installe ce papier peint dans différents espaces d'exposition. Et ce papier peint est composé d'images. On remarque que c'est toujours les mêmes images qui se de lait en lait, en fait, justement, la technique papier peint permet ça. Vous avez une image qui se répète au même endroit, sauf que ce qui change à chaque fois, c'est la relation qu'il fait entre les images. Et donc là, on peut penser à ce matin, à Warburg, c'est l'intervalle et l'articulation des images qui changent chez Marc Geffriot. Mais c'est toujours les mêmes images. Voilà. Bon, et puis, je pense aussi à Benoît Maire, qui a énormément utilisé la figure de la méduse dans son travail et qui a réutilisé dernièrement, qui est exposé à l'espace Paul Ricard. Sculpture de méduse, cette image donc mythique, mythologique, qu'il a utilisée au début en sérigraphie. Donc sérigraphie qui est vraiment une technique des années 70 de multiplication de l'image. Donc, on voit bien que ces artistes-là aussi utilisent des techniques qui sont appropriées à l'usage qu'ils font des images, des sources, des références. Voilà. Mais en fait, je ne vais pas les inviter à mon expo. Je vais inviter d'autres artistes. Mais je pense à eux quand même. Voilà. Donc, on peut penser à ça. Ces artistes qui utilisent leurs œuvres comme source, qui réemploient eux-mêmes, ou qu'ils ouvrent aussi, ils ouvrent l'utilisation à d'autres gens. Donc, peut-être qu'on peut penser aussi à des œuvres d'art comme des open source. Et peut-être qu'une œuvre peut être une source d'utilisation publique. En tout cas, c'est ce que j'aimerais mettre en marche à Quimper, en avril. Et voilà, c'est ce qui pourrait. Cette idée pourrait m'intéresser. Quand je faisais référence à la théorie des trois âges en archives, ce qui est intéressant, c'est ce basculement de données du présent dans le passé. Donc, affaire courante devient semi-courante, ou bien un surgissement de données passées dans le présent, ou encore une anticipation de l'archive d'un événement qui, dans le futur, fera date. C'est là où je parlais de spéculation tout à l'heure. Donc, c'est une spéculation de ce qu'il faudra retenir, garder en mémoire. Donc, ce que j'ai envie de mettre en exergue, c'est que les sources en fait se défont d'un temps fixe. Leur utilisation, leur traitement sont anachroniques puisqu'il peut y avoir classement et déclassement de données à chaque instant. En fait. Et cet anachronisme sans complexe se retrouve chez certains artistes. Et là, en particulier, je pense à la cinéaste Marie Lozier que je vais inviter. J'aurais pu parler de plein d'autres artistes, mais là, je parle vraiment de l'exposition que j'organise, qui est en fait donc, cinéaste, qui vit à New York depuis 15 ans, d'ailleurs qui était française, mais qui est devenue américaine, qui est programmatrice de films à l'Alliance française. Donc elle a aussi accès à beaucoup de documents, beaucoup de films. Et elle réalise des documentaires, toujours suite à des rencontres de personnages emblématiques de la scène underground new-yorkaise des années 60 et 70. Donc elle se met en contact avec ces personnes-là, comme Tony Conrad, les frères Couchard, ou dernièrement Genesis Porridge. Donc en fait, ce sont des artistes vidéastes, musiciens. Elle se met en contact avec eux lors de rencontres. Et elle a un travail de biographe, sauf qu'elle vit avec le sujet qu'elle filme. Et elle les met en scène dans des situations des fois burlesques. Et elle partage avec eux beaucoup de temps anodin, quotidien, qu'elle met en image. Donc c'est un mélange de temps, de moments quotidiens, de scènes burlesques. Et filmé en 16 mm avec la technique qu'elle emploie est une référence directe à la vidéo expérimentale, etc. Donc ça, je pense qu'on va montrer un de ses films à l'exposition à Quimper, parce que ce qui m'intéresse, c'est comment elle est au plus près d'un sujet dont elle fait l'archive, et en même temps elle vit avec ce sujet. Et c'est par sa subjectivité à elle qu'on a l'impression de connaître le plus clairement la personne, le sujet qui est filmé. Donc cette approche qui n'est pas réaliste, et pourtant elle montre une certaine réalité. J'ai fait exprès de ne pas vous montrer d'image, comme ça vous êtes obligés de venir voir l'exposition en avril. Non, mais je préfère en fait pas figer mon discours à travers des images, parce que comme je vous ai dit, on va produire des œuvres nouvelles pour cette exposition, donc j'ai pas envie de montrer le travail des artistes à leur place, quoi. Voilà. Donc ça, c'est une piste. On peut aussi boire un peu d'eau. Si on revient à cette idée que l'archive porte l'indice d'un devenir, on peut donc envisager les œuvres comme des indicateurs de leur propre transformation, des annonces de leur évolution, des œuvres qui permettent un rebondissement, qui offrent des percées, des fuites, qui ne s'annoncent pas en programme unique, mais donnent l'élan de programmes futurs. Tout simplement parce que quand une œuvre est exposée, donc elle est rendue publique. C'est une publication, en fait. C'est rendre public une forme, une idée, une pensée. Donc quelle action, quelle activité peut surgir de ces publications? Ça, c'est une question... en tant que commissaire d'exposition, on organise l'exposition d'un certain temps, qui sont en place, dans un espace dont on apprécie les œuvres. Mais comment on peut rendre palpable, sensible l'évolution de l'œuvre elle-même? Est-ce qu'on peut imaginer qu'une œuvre fonctionnerait comme une boîte de tangram, qu'elle contienne ce qu'elles seront, sans jamais fermer les règles de leur combinaison? Est-ce que les œuvres peuvent être des archives de leur devenir et rester en constante animation? Donc, bien sûr, je pense aux œuvres qui sont le programme de toute une vie, comme la peinture de Onkawara. Mais mes références, là, viennent plus de Fluxus, et en particulier donc, de Georges Brecht, et de ses partitions, les scores. Donc, Brecht, il est mort récemment, en 2008. Il est l'inventeur des événements. Et en 1963, il organise le YAM Festival avec Robert Watts, qui est en fait un programme sur plusieurs jours, avec une soirée en particulier où il y a en fait l'exécution de plusieurs gestes assez simples qui sont exécutés selon un protocole écrit, donc des partitions. Et ce thème partition, bien sûr, a une référence directe à la musique, à la composition aussi musicale. En fait, il faut savoir que Fluxus, au départ, proposait donc des festivals et pas des expositions. Et elles étaient représentées dans des théâtres ou dans des salles de cinéma et pas dans des musées. Donc il y a vraiment cette idée de travailler avec des représentations vivantes en public, comme l'a fait la Monte Young ou Nanjum Peck, etc. Et Georges Brecht raconte, quand il écrit ces events, qui pensait aussi que ça pouvait, que ces partitions pouvaient être réemployées par ses proches, ses amis artistes proches. Il a d'ailleurs utilisé, il les envoyait aussi par courrier. Et le YAM Festival, la manière de communiquer au début, c'était de la correspondance. En fait, il envoyait des sortes d'annonces par courrier du YAM Festival, de partitions. Quand là, voilà. Donc les partitions, vous pouvez en fait, pour voir un peu ce que c'est, vous pouvez aller voir le Fluxus Codex, qui est une sorte de compilation des instructions des partitions de Fluxus. Vous pouvez aussi voir ce que le commissaire et critique d'art Hans-Uri Kobrist a compilé dans son livre Do It, qui est paru en 2004 et qui est une compilation d'instructions. Proposé par plus d'une centaine d'artistes, je crois. Donc, au-delà des années 60 et 70. Donc, partition, écriture. Voilà, ça prend une forme écrite. Celle de Brecht a une typographie très simple, c'est noir imprimé sur feuille blanche. Et c'est une forme, donc, en fait, la plus courante. Donc cette forme-là, elle sera présente dans l'exposition à Quimper. Notamment, je vais travailler avec la commissaire Elodie Royer, qui sera en résidence au Japon, à la Villa Kujoyama, et je lui ai commandé des lettres, parce qu'elle a tout un travail sur la correspondance, et j'aimerais qu'elle l'écrive à l'exposition, en fait, qu'elle s'adresse à l'exposition, et que ça soit des sortes de partitions qu'on pourrait rejouer lors de l'exposition. Donc il y aura cette forme-là de lettres. Il y aura aussi une jeune artiste, jeune dans sa pratique, qui s'appelle Émilie Parando, qui est diplômée depuis 2-3 ans, je crois, aux Beaux-Arts de Lyon, et qui a créé une structure qui s'appelle Alloué. Donc en fait... Elle dit que Alloué est un mécanisme qui a pour objet l'activation d'une œuvre programmatique. Donc, son travail, en fait, consiste à... Elle analyse ses partitions, cet héritage, comme ça, et elle essaye de voir comment elle pourrait réactiver ses partitions, mais dans un contexte présent, actuel. Comment... ça peut continuer à devenir vivant, en fait. Et elle m'a dit une chose, parce que ce terme alloué, je m'interrogeais un peu, elle m'a dit, mais c'est comme quand tu loues un appartement, il y a certaines choses que tu changes, il y en a d'autres, tu as besoin de te référer au contrat pour savoir si c'est possible de casser une cloison ou de repeindre un mur. Et elle fait pareil. Donc elle a commencé avec Claude Ruteau, à vraiment... décortiquer les instructions de Claude Ruteau, à l'interviewer, à revenir sans cesse vers lui, et même à pousser un peu la position de Claude Ruteau, parce que des fois, elle remarque que ses partitions changent d'une époque à l'autre, et elle lui demande pourquoi. Donc elle a vraiment un travail d'analyse de ses partitions, et après, elle les rejoue. Elle fait des faux, même des fausses pièces Fluxus, parce que les pièces actuelles de Fluxus, on peut, à l'origine, on pouvait les manipuler. Enfin, par exemple, Brecht a fait des boîtes qui étaient des remplies d'objets ou de partitions qu'on pouvait rejouer. Aujourd'hui, avec les problèmes de conservation et puis d'acquisition de musées, on ne peut plus les toucher, ces boîtes-là. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On les expose, oui. C'est quand même une trace, une histoire. Moi, je pense peut-être en exposer même dans l'expo. Mais Émilie Parando, elle essaye de voir comment... on peut les réactiver. Donc elle va refaire les œuvres en fait, et elle va les proposer au public. Le public peut les toucher, les retravailler, ou en fait elle-même elle les refait, elle les relie. Donc elle va vraiment participer aussi à l'expo. Mais voilà, au-delà de la forme partition, moi j'aimerais bien aussi qu'on imagine que les œuvres d'art elles-mêmes sont des partitions, même s'il n'y a rien d'écrit dessus. Et dernièrement, je pensais à Nicolas Chardon, qui est un peintre français, et qui peintre abstrait, mais qui effectivement revisite les poncifs de l'art moderne, et en particulier de Malevitch. Donc c'est bien, c'est un peu dans la lignée de ce que vous avez vu là avec Guillaume Desanges. Et dernièrement, Nicolas Chardon expose des monochromes noirs, et il décide, mais de manière assez aléatoire finalement, d'utiliser ces tableaux en scène. Et sur cette scène, dernièrement par exemple, la Biennale de Belleville, il avait laissé dans l'espace public un monochrome noir posé contre un mur. Il s'avance devant le monochrome, le met au sol, et là s'avance un danseur de claquettes qui joue des claquettes sur ce monochrome. Ensuite, le danseur part et il remet ce monochrome en place. Ça, c'est pas. Je sais que, connaissant Nicolas, il se pose cette question de deuxième souffle, de prolonger en fait l'œuvre à travers un autre geste. Et je trouve que partir d'un monochrome comme une surface de projection, mais dans un sens plutôt littéral, je trouve ça assez libre d'interprétation, peut-être même plus qu'une partition de Brecht. Parce que donc Brecht, il écrit, il est lucide, hein, il faut prendre une chaise blanche, prenez une chaise blanche, mettez-la dans un espace d'exposition, enfin, je ne sais pas où, posez un pain, voilà, ça fait une sculpture. Donc voilà, on lit l'instruction, on la réalise. Et pourquoi on ne pourrait pas imaginer qu'une peinture fonctionnerait comme ça, une sculpture ou... Voilà. Donc en fait, l'exposition, éventuellement, serait comme ça, en fait. Vous auriez des œuvres qui seront exposées pendant 90 jours, et il y aurait trois soirs où ces œuvres-là, potentiellement, pourraient se prolonger comme ci, comme ça, avec cette forme-là, ce geste-là. Ces idées venant des artistes eux-mêmes aussi, voilà. Je ne sais pas si je peux continuer à parler un peu des artistes qui m'intéressent en ce moment. Vous avez un artiste thaïlandais, Prachya Phintong, qui va exposer le 5 décembre, là, va s'ouvrir une exposition personnelle de cet artiste au Centre d'art de Brétigny. Alors, j'ai pensé à lui parce que là, le protocole n'est pas forcément... exposer, montrer ses œuvres, et ce qui est montré, c'est un principe d'équivalence. C'est-à-dire que pour cette exposition à Brétigny, c'était une résidence qu'on lui proposait, et lui, il a dit « je ne viendrai pas, en fait, je ne veux pas venir, je pars en Laponie avec les travailleurs thaïlandais qui sont recrutés pour cueillir des baies rouges en Laponie. Ils sont... pris en avion, on les amène en Laponie, ils cueillent des baies rouges et ils repartent. C'est un travail vraiment très difficile. Il faut cueillir 15, 10 kilos, 20, 25 tous les jours. Et donc lui, il annonce ça donc, à Pierre Balblanc, le directeur du centre d'art. Je pars en Laponie et chaque jour, je ramasserai tant de kilos de baies rouges. Et j'aimerais que tu fasses ce même geste à Brétigny en ramassant tout objet que tu trouves dans l'espace public, comme des déchets, ce qui t'apparaît comme déchets. Et ensuite, pour cette exposition, j'aimerais que tu t'occupes entièrement de la disposition de ces déchets, donc que tu fasses l'exposition. Et donc l'artiste est parti plus d'un mois en Laponie. Cette histoire-là, en fait, elle est rendue publique par le communiqué de presse, Le communiqué de presse, c'est une correspondance entre le directeur du centre d'art et l'artiste par mail. Vous avez différents mails qui expliquent « Bonjour Pierre, aujourd'hui c'est 15 kilos. » Ah d'accord, voilà. Et donc il y a un statement, il y a une instruction. Mais elle fait pas, c'est pas la forme, enfin c'est pas une fin en soi. Elle est plutôt utilisée comme une méthode de travail pour rendre visible une équivalence d'activité. Quel serait le poids de baies rouges et de déchets à Brétigny? Est-ce qu'on pourrait penser une équivalence, une relation en fait entre ces deux mondes, ces deux territoires? Et donc je vais voilà, travailler sur moi aussi avec lui. Je ne sais pas si j'ai encore... Ça va, je suis bien là, niveau temps. Ou pas, ouais. Je pense aussi à Ben Kinmont, artiste américain, avec son projet en 2009, Unbecoming Something Else, Someone Else. On Becoming Something Else, en 2009, qu'il a fait pour le Centre Pompidou, en octobre-novembre 2009. En fait, pour moi, Ben Kimon et Pratchia travaillent un peu dans cette idée de... En fait, les œuvres sont des sortes d'indicateurs. Ce qui les intéresse, peut-être pour Ben Kimon, là, c'est l'opéra... Comment s'opère une transformation? Et pour Beaubourg, c'était la transformation d'une recette de cuisine en goût, en plat. Et il s'est intéressé à l'histoire d'artistes qui ont décidé de changer de vie, changer d'activité, qui ont cessé d'être artistes. Donc, il a répertorié une série d'artistes qui ont décidé d'être activistes, professeurs de yoga, paysans, agriculteurs, etc. Et ces biographies-là, il les a écrites, il les a données à des chefs cuistots, des chefs de restaurants. Et il se demandait comment on pouvait traduire cette décision, cette transformation en goût. Ces chefs ont réalisé des recettes. Le public pouvait donc se rendre dans ces restaurants. Ces recettes étaient des hommages à ces personnes-là, à leur capacité de transformation. Mais donc il y a cette chose-là, donc que le public pouvait vivre, aller dans ces restaurants, réserver, manger le plat. Mais à Beaubourg, vous aviez donc ces biographies qui étaient imprimées sur une grande affiche que le public pouvait prendre avec soi. Donc il y avait déjà donc cette idée de publication et gratuite. Et il a aussi fait un parallèle avec des fainéants en fait qui a écrit. Un texte théorique sur les pièces montées. Et donc tout ça était en relation. Vous pouviez partir avec ce manifeste de Fénéon, les recettes écrites et les biographies de ces personnes-là, et aller aussi goûter les plats. Donc, encore une fois, là, je vous parle d'exemple de ces artistes-là. Moi, ce que je fais en ce moment, c'est que je discute avec eux. Et à partir de ce qu'ils ont réalisé et ma proposition, on va faire des choses nouvelles. Donc, moi, j'attends de voir ce qu'ils vont faire. Je pense aussi à Aurélien Froment. En fait, ce que j'aime, c'est que chez cet artiste, c'est-à-dire qu'il y a certaines œuvres dont on a l'impression qu'elles sont prophétiques, qui annoncent des événements à venir, comme sans que l'artiste lui-même sache encore où tout cela va mener. C'est-à-dire qu'il met en route un processus avec des échos d'œuvres, les œuvres se font écho, mais la destinée n'est pas encore tracée, quoi. Et je pense à cette pièce d'Aurélien Froment qu'il avait fait en 2002. Il avait réalisé un agenda 2030, donc voilà, sur l'année 2030. Et il avait inséré une image d'archive d'un lieu qui s'appelle Arcosanti, qui est une cité idéale construite dans le désert en Arizona, construite par l'architecte Paolo Soleri. Et il avait inséré comme ça cette image de cet espace-là qui existe. Et plusieurs années après, il s'est rendu pour de vrai. Donc 2002, il fait l'agenda 2030 et l'image date de 1978. Et il le dit, je ne sais pas encore ce que cet ensemble de dates, 1978, 2002, 2030, va produire au final. Mais il y a cette idée du montage des temps. Et ça, je trouve ça vraiment assez intéressant, cette idée du montage des temps. Donc, le fait de faire coïncider différentes temporalités permet aussi à l'artiste d'agir, d'interagir dans ces temporalités-là. Et ensuite, en 2005, il s'est rendu là-bas, Arcosanti. Il a fait un film sur cette cité. Et je ne suis pas qui pensait en 2002 quand il a inséré cette image d'archive, je ne pensais pas qu'il était sûr et certain d'aller se rendre à Arcosanti. Mais voilà. Donc ce film s'appelle The Apes, The Bell and the Antelope, qui parle en fait qui présente cette cité avec plusieurs temporalités. Il y a un aspect historique, donc on découvre le site. Il y a aussi l'avenir de ce site, parce qu'il n'a pas été terminé d'être construit. Et le guide s'appelle Roger Tomalti. Il apparaît comme ça et disparaît à l'écran avec des sons de cloche. Et ça fait une sorte d'apparition comme ça, un peu fantomatique, un peu merveilleuse. Et je trouve que ça renforce cet anachronisme, justement. Ça y est, il faut que je me... Ok. Bon, je vais juste terminer encore avec Aurélien, mais peut-être que c'est aussi une piste. Je trouve qu'en général, il y a peut-être quelque chose d'assez simple qu'on peut voir quand on va voir un spectacle, une conférence... ou un film qui nous plaît, on a le ticket d'entrée au début qui annonce par le titre ce qu'on va voir. Et quand le film est terminé, c'est ce qui nous reste dans la main, cette trace-là de ce qui a été projeté, en fait. On l'a dès le début et on l'a après. Et Aurélien Froment, à la FIAC, là, en 2010, a designé des tickets d'entrée pour sa performance. Et je me demande s'il n'y a pas cette trace comme ça qui traverse les temps, qui peut être envisagé donc dans l'exposition à Quimper. Voilà. Bon, tant pis pour les autres artistes auxquels je voulais parler. Mais l'expo a lieu le 15 avril au 16 juin et elle s'appelle Papier avec Lune. Voilà.
Merci.
Alors, Guillaume, est-ce que... Donc on va faire une petite...